Cela dit, nous allons passer tout de suite à la séance des questions-réponses, qui est la deuxième partie de notre conférence de presse. Une conférence de presse où nous avons donc le plaisir d'accueillir José María Aranaz, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, David Gressley, qui est le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies ici en RDC. Bien sûr, nous avons notre collègue militaire, le colonel Martin Amouzou à Goma, l'équipe pays ici avec donc Geneviève Delenoy pour répondre à d'éventuelles questions humanitaire et de développement. Voilà qui est dit. Nous restons ici à Kinshasa pour prendre deux questions éventuellement. On commence par la dame à côté. On a deux dames, donc voilà, on va commencer par les deux dames. Okay. Présentez-vous et puis une question, s'il vous plaît.
Merci. C'est Violette Eya du journal La Colombe. Mon interrogation s'adresse à monsieur José María. Maintes fois, le Bureau conjoint des Nations Unies publie le rapport sur la violation des droits de l'homme. Pensez-vous que ce rapport a un impact sur le gouvernement congolais et ou soit le gouvernement congolais a vraiment un regard sur ce rapport? Merci.
José María, est-ce que ce rapport a un impact sur le gouvernement? Est-ce que le gouvernement en prend compte?
Le rapport, et merci beaucoup pour la question, je pense qu'il faut clarifier. Le rapport, c'est seulement un moyen de faire un diagnostic. Le rapport, c'est le début.
Un diagnostic.
Un diagnostic, excusez-moi. C'est le début d'un processus de dialogue pour mettre en place les recommandations et améliorer la situation. Comme on a déjà dit, les recommandations qu'il y a dans le rapport, ce n'est pas seulement pour le gouvernement. Il y a aussi des recommandations pour les autres acteurs politiques. Il y a aussi des recommandations pour la communauté internationale. Et on veut utiliser les rapports, et surtout l'information de les rapports et les recommandations, pour désigner une feuille de route pour les élections apaisées, crédibles et transparentes.
Deuxième question, il y a une dame juste à côté.
Ma question s'adresse aussi au directeur du Bureau de droits de l'homme, c'est Christian Ekambo, journal des Nations, .net et Africa News. Votre dernier rapport a vraiment été vigoureusement contesté par le gouvernement congolais, par l'entremise de son ministre de communication et médias, qui remet en cause la méthodologie de travail et qui, partant, remet aussi en cause, souligne Mordicus, que les résultats sont biaisés. Qu'est-ce que vous en dites? Et j'aurais encore une autre question. Je voudrais dire que tout le temps, vous publiez des rapports et dans vos rapports, vous pointez du doigt, dans la plupart des cas, les services de sécurité, le PNC, le FARDC, comme étant responsables de violations des droits de l'homme. Le gouvernement congolais n'est pas d'accord. Et moi, je me demande, est-ce que vous ne craignez pas d'avoir le même sort que votre prédécesseur, Scott Campbell, qui a été considéré comme persona non grata, pour ne pas dire expulsé de la RDC? Je vous remercie.
Je crois que ces questions peuvent être partagées, bien sûr, avec David Gressley, mais la méthodologie d'abord.
D'accord. Je ne suis pas ici pour parler des personnes ou des autorités. Je pense que les autorités font son travail, surtout la question de communication, c'est une question assez délicate. Mais je peux vous dire, nous avons une communication fluide et constante avec les autorités, même avec les autorités les plus sécrétives, et nous avons la communication dans les cas individuels. Nous parlons avec toutes les autorités, et je voudrais remercier les autorités parce qu'elles nous ont donné l'opportunité de parler au niveau ici de Kinshasa ou à Goma, au niveau des terrains. On travaille et on reconnaît l'effort qui a été fait. D'accord? Ça, c'est d'un côté. C'est ici, ce sont toutes les lettres, par exemple, qui me donnent les autorités chaque mois des remerciements pour l'information quand on la partage. Et ça vient des autorités au niveau central et au niveau local. D'un côté. Est-ce que le rapport aura des impacts ou non? Comme j'ai dit, c'est le début d'un processus pour désigner une feuille de route pour les élections crédibles à PC. Mais la question fondamentale, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser, les gouvernements publiquement à questionner la méthodologie de l'information. On a expliqué beaucoup de fois que la méthodologie, c'est la méthodologie standard pour toutes les Nations Unies qui ont fait les investigations des droits de l'homme, et il a un standard de preuve qui est plus haut que le standard des ONG ou même des autorités. Si vous vous rappelez, par exemple, dans les événements de janvier, la chiffre des personnes tuées dans le contexte de manifestations s'est rapporté pour les Nations Unies. C'était plus bas que la chiffre officielle du gouvernement. Pourquoi? Parce que notre standard de preuve, c'était plus haut que ce des autres sources. Pour moi, ce qui est important, c'est, et ce qui est positif, c'était l'information du rapport n'était pas contestée, même s'il avait. Et l'autre chose, c'était la validité des recommandations. Les autres choses, je ne peux pas les changer parce qu'elles sont d'application globale pour toutes les Nations Unies.
Monsieur Chrysler, vous voulez ajouter quelque chose?
Hein?
Vous ne craignez pas d'être expulsé, dit-elle?
C'est pas une question personnelle. Les rapports étaient validés pour les hauts commissaires et pour les représentants spéciaux ici. C'est pas une question personnelle. Comme je dis, on parle de l'information, pas des individus.
Pas de Monsieur Aranal. On va prendre une question à gauche, à droite ici, avant d'aller à Goma. Rapidement.
Merci pour les micros. C'est un journal de prêt pour les comptes de Géopolice. La MONUSCO est invitée au colloque international qu'organise la faculté de droit en connivence avec l'Institut africain pour les droits, la démocratie, la gouvernance et la paix. Ce sera autour de 10 ans de la constitution congolaise. Est-ce qu'on peut déjà avoir vos impressions par rapport à ces rendez-vous?
Si nous sommes invités, nous serons présents. Voilà. Voilà. Direction Goma. Trois questions. Goma, rapidement.
Donc, merci, c'est Norbert Mouloula pour le compte de la radio-télévision Gabène. La restriction des libertés publiques dans le processus électoral, comme l'a dit monsieur Marie Aranaz. Ma question est de savoir, monsieur Marie Aranaz, quel moyen de sanction avez-vous peut-être pour infliger aux violateurs de ça, parce que de toutes les façons, chaque jour vous dénoncez et la chose continue à se faire. Merci.
Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme ne sanctionne pas. Et je crois que M. José Maria Aranaz a bien situé le cadre et l'esprit de ce rapport. Peut-être que vous allez répéter un peu pour que les gens comprennent, les journalistes comprennent pourquoi ce rapport a été fait, quel est l'objectif que vous visez.
Oui, je pense qu'il faut être clair. La première chose, ce n'était pas le rapport de José María Aranaz. Ce n'était pas un rapport personnel. C'est un rapport institutionnel qui était commandé par le Conseil de sécurité et qui était signé, endorsé et qui a l'appui du haut commissaire des droits de l'homme et les représentants spéciaux du secrétaire général pour la DC. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce n'était pas un instrument de sanction. C'était seulement un diagnostic qu'on utilise pour identifier les mesures pour travailler ensemble avec le gouvernement surtout, mais aussi avec les autres acteurs importants pour les processus ou relevant pour les processus électoraux, pour améliorer la situation, identifier des choses à faire pour doter les processus électoraux de la crédibilité nécessaire. On peut, comme on a dit, c'était standard d'avoir dans tout le monde les rapports publics, et dans notre processus de dialogue avec les gouvernements, toujours on a dit on peut être d'accord, on n'est pas être d'accord, mais on va montrer toutes les positions et trouver qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. C'est pour ça qu'on a aussi vulgarisé les commentaires qui nous a donné les gouvernements. C'était l'accord et c'était une pétition expresse du gouvernement. S'il vous plaît, ne cachez pas quels sont notre commentaire. Et on a dit, il n'y a rien à cacher. On a partagé toute l'information. Il y a des choses qui ne sont pas maintenant dans les rapports parce que le gouvernement nous a demandé de remover quelques paragraphes et quelques informations. On a pris ça en compte. On fait comme ça toujours. La question des rapports, c'est une question routinière et c'est une question de mandat du Conseil de sécurité et des relations entre les gouvernements congolais, le Conseil de sécurité, les Nations Unies et le haut commissaire des droits de l'homme. Et excusez-moi, si je peux dire une petite chose que, par rapport à la question antérieure de qu'est-ce qui se passe si j'étais expulsé, si j'aime le RDC, j'aime être ici et de travailler avec mon partenaire d'ici. Alors, ça serait un événement infortuné.
Ok. Goma, toujours, deuxième question.
Oui, je reprends au nom de Blaise Pascal pour le compte du journal Essentiel. Je voudrais poser la question à M. José. Au-delà du fait qu'on reproche déjà la méthodologie et l'approche utilisée par le bureau, mais je suivis le vice-ministre de droits humains congolais sur le fait que le gouvernement congolais a rejeté en bloc le contenu de ce rapport. Parce que selon le gouvernement, vous n'appuyez pas vos rapports avec des preuves tangibles démontrant le fait que vous alléguez au gouvernement. Et non seulement de preuves, mais des éléments de preuves qui peuvent justement soutenir. Et ce rapport, il n'y en a pas. Voilà la raison pour laquelle le gouvernement rejette en bloc, le rapport que vous avez l'habitude de publier. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec cet élan de choses, ce rapport va finalement perdre sa crédibilité?
José Maria, des preuves pour soutenir votre rapport?
On partage l'information de ces rapports et dans tous les autres rapports de manière routinière avec les autorités. Ce que j'ai montré avant, c'est la correspondance que nous avons chaque mois avec les autorités. Comme je veux dire, il y a une question que c'est la communication publique. Et je comprends que le rôle qu'il faut jouer avec les collègues de la presse et tout ça. Mais il y a aussi un travail plus profond, de travail ensemble qui n'était pas public, publiqué chaque fois. On donne l'information, on le partage avec les autorités, on reçoit les commentaires. Et parfois, il y a des questions. Et quand il y a des questions, on la répond, on donne, parfois on donne un dossier plus complet. La méthodologie de travail et le système de preuve, c'est toute l'information qui était inclue dans les rapports était vérifiée. Il n'y en a pas d'allégation, c'est à vérifier au moins pour des sources d'information. Et ça, c'est standard dans tous les rapports des Nations Unies en matière de droits de l'homme.
Est-ce que sur les 143 violations des droits de l'homme documentées dans ce rapport, vous avez des preuves?
Nous avons des différents moyens de preuves, mais nous avons des preuves. Et même aussi, comme on a constaté, 143 violations des droits de l'homme, s'inclut plus si le chiffre des victimes, c'est plus grand, mais on ne généralise parce que parfois, nous ne savons pas les chiffres concrets des victimes. Les chiffres de violation, je pense, c'est conservatif et c'est limité par notre propre méthodologie et aussi par les standards de preuve que nous avons. J'ai donné avant l'exemple des chiffres de personnes tuées dans les manifestations de janvier passé. Les chiffres mentionné par les Nations Unies, c'était plus bas que la chiffre officielle des gouvernements.
Voilà, je crois que Goma a droit encore à une question.
Je m'appelle Isaac Mastak pour le compte d'Emmanuel Télévision. Souffrez, M. Maria, que nous allons continuer à vous attaquer. C'est juste une question de... Aujourd'hui, c'est célèbre la journée mondiale de lutte contre la corruption, compte des Nations Unies. Je ne sais pas, vous, aux côtés des Nations Unies, comment vous avez conçu cette journée et quelles sont les peines pour les comptes des Nations Unies infligées aux agents sexuels. Merci.
Vous avez dit que c'était la journée de lutte contre la corruption. Peut-être que le PNUD va nous dire un mot, parce que je crois que ça tombe dans l'escarcelle des agences du système des Nations Unies.
Cécile. Bon, cette journée fait partie de toutes les journées internationales du calendrier des Nations Unies. En ce qui concerne le PNUD, il n'y a pas particulièrement d'activité liée à ça. Simplement, nous sommes attentifs, nous diffusons le message du secrétaire général et des autorités au sein des Nations Unies. Mais la corruption, ce n'est pas seulement la corruption financière. Ça peut aussi être la corruption des idées, la corruption des esprits, la corruption des corps, etc. Donc, si je peux me permettre un petit commentaire personnel, ce n'est pas au nom du PNUD, c'est en mon nom personnel. Ces journées internationales, si elles existent, c'est pour nous faire réfléchir sur des thématiques et voir comment nous nous comportons nous-mêmes par rapport à certaines thématiques, que ce soit les violences contre les femmes, les filles, que ce soit la journée de l'alimentation ou la journée contre la corruption. Donc, réfléchissons peut-être chacun en nous-mêmes, dans la fonction qu'on occupe, pour voir si nous sommes corruptibles, si nous ne le sommes pas, ce que nous faisons pour éviter la corruption à tout niveau, si nous restons cohérents, consistants avec nous-mêmes. Voilà, ce serait peut-être le message que j'aimerais vous délivrer.
Monsieur Aranaz, un mot à ajouter peut-être, ou Monsieur Grézelet ?
Non, je voudrais vous dire aussi qu'au-delà de la journée internationale contre la corruption, cette semaine, il y avait aussi les journées internationales des personnes avec handicapés. Et on l'a célébré ensemble avec les gouvernements et les associations des handicapés de l'RDC. Et on a profité l'occasion pour féliciter et saluer les efforts des gouvernements pour la législation et les mesures et les programmes de plans d'action pour protéger et intégrer les personnes avec les handicapés. Et aussi, il y avait la Journée internationale des défenseurs des droits de l'homme, qu'on a utilisé aussi pour souligner le besoin d'avoir une législation spécifique de protection des défenseurs des droits de l'homme à l'RDC.
Monsieur Grizzly, un petit mot sur ces thèmes?
C'est peut-être sur le report, mais okay. Je peux ajouter quelque chose, parce que je sens que c'est très important pour tout le monde ici. Je crois que ce qui est important à souligner est que nous restons disponibles pour discuter soit la méthodologie, soit les faits, soit les recommandations. Et l'essentiel est que nous sommes là pour trouver des solutions pour avoir des élections paisables, sans violence. Et je dois citer que c'est les mêmes objectifs du gouvernement même, qui ont été cités souvent par le gouvernement. Donc, l'objectif de ce rapport est de donner quelques recommandations pour achever cet objectif partagé. Okay. Donc, nous restons disponibles pour en discuter. Merci.
Merci. Nous revenons ici à Kinshasa pour prendre une question sur... On va rester à côté. Ensuite, on va aller un peu au fond. Allez-y.
Allo Waikani, l'agence des presse Chine Nouvelle, CCTV. Je reviens à vous, M. Charles. Vous avez déploré le fait que l'ADF recrute les enfants. Moi, je veux savoir, l'ADF, est-ce que maintenant l'ADF occupe le territoire où il peut avoir la capacité de recruter? Est-ce qu'il recrute ailleurs ou bien au Congo? Parce que le général, la semaine passée, avait parlé du fait qu'il y a de plus en plus d'agressivité qui fait voir que l'ADF a reçu des renforts. Est-ce que c'est ces renforts des affaires soldats qui viennent d'ailleurs, ou bien c'est sur le territoire congolais que l'ADF recrute? Parce qu'on a dit qu'il n'occupait plus de territoire pour lui permettre de mener des activités comme ça. Merci.
Je crois que c'est une question éminemment militaire, mais des éléments de réponse sont assez clairs. Hein. Aujourd'hui, tout le monde sait, avec précision, que les ADF est un groupe très éclaté, qui opère en petits groupes à travers le territoire de Béni et puis un peu plus ailleurs. Mais c'est vrai qu'ils n'occupent pas de territoire en tant que tel. Ils sont éclatés, ils attaquent des villages, ils attaquent des localités et ils disparaissent ensuite dans la nature. C'est pas comme il y a 2 ans où effectivement ils occupaient du terrain, ils avaient pris en otage une bonne partie de la population qui était dans la forêt avec eux, qu'ils séquestraient. Aujourd'hui, l'ADF opère en petits groupes ici et là. Et avec les FRDC, la force de la MONUSCO, comme c'était le cas à Erengeti, s'emploie à les traquer, à les combattre, afin qu'ils puissent disparaître complètement de la surface. Est-ce qu'ils recrutent? Selon les informations le mercredi dernier du général Bayot, on craint qu'ils pourraient avoir quelques éléments qui viendraient de l'extérieur. Mais ça, c'est une piste qu'il faut explorer. C'est une piste éventuellement qu'il faut creuser pour voir si cela est avéré. Et je crois que les éléments de la force de la MONUSCO ainsi que des FRDC s'emploient à effectivement avoir le maximum d'informations pour éventuellement, j'allais dire, ajuster leur réponse militaire sur le terrain afin de les contrer définitivement. Nous allons prendre une question sur la droite ici.
Merci. Moi, c'est Flavien Mssens pour le compte des Planètes Télévisions. Je reviens sur les rapports des HCR. Ça fait au moins...
Le rapport du...
HCR. Il y a au moins 500 000 personnes, suite à la situation au Sud-Soudan, qui se retrouvent en République démocratique du Congo. Maintenant, moi, j'aimerais savoir... Je me mets devant Sylvestre Mtinga. J'aimerais savoir, est-ce que Oja a pris soin de ces réfugiés-là? Parce que nous connaissons, la plupart des réfugiés entrent en République démocratique du Congo... Ils occupent des écoles, des églises, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une organisation des agents humanitaires sur cette situation?
Nous allons demander à notre confrère Kirkos Andreas de répondre à cette question au nom du HCR. Andreas?
Oui, concernant le Sud-Soudan, les chiffres de 500 000 et probablement un chiffre global de déplacements. En ce qui concerne la RDC, les chiffres sont beaucoup moins importants. Il s'agit de presque 4 000 réfugiés sud-soudanais qu'on a enregistrés dernièrement. Et il y avait déjà avant 1 700 sud-soudanais sur le territoire. En plus, dû à la violence au Sud-Soudan, il y a des réfugiés congolais qui rentrent. Le problème est que le territoire est très, très inaccessible. De Bounia, nos équipes, ils ont pris 3 jours pour atteindre la zone et on est en train de préparer une assistance ponctuelle. On voudrait d'ailleurs remercier les autorités congolaises pour leur approche très coopérative et l'accès au territoire qu'ils ont permis à ces populations.
Voilà, merci. Je sais que Radio Capi va continuer par un bulletin d'information dans quelques instants. Nous, ici, nous allons continuer à prendre une ou deux questions avant de mettre fin à cette conférence de presse. Allons-y au fond, s'il vous plaît. Merci. Un peu plus au fond, peut-être, parce que les gens du fond sont souvent victimes.
Merci. C'est Freddy Goukalala pour le compte de CBS. Depuis toujours, les ADF et tous les groupes armés qui opèrent à l'Est n'ont jamais changé leur mode opératoire. Aujourd'hui, le représentant spécial décide d'élargir les actions de la MONUSCO à travers tout le territoire de l'Est. Qu'est-ce qui a changé dans les attaques des groupes armés en RDC pour qu'il y ait cette demande d'élargir le champ d'action des éléments de la MONUSCO, à l'Est du pays?
Merci. Qui a demandé d'élargir le champ d'action de la MONUSCO?
Le représentant spécial depuis Goma a demandé il faut élargir les champs d'action de la MONUSCO pour SMP d'attaquer les groupes armés.
Je crains que vous n'ayez peut-être mal compris le représentant spécial à Goma, mais est-ce que le porte-parole militaire à Goma a quelques éléments de réponse?
Merci Charles. Je pense que le représentant spécial n'a pas demandé d'élargir. Il a plutôt demandé de renforcer la coopération entre les FARDC et la MONUSCO. Je pense que le représentant spécial n'a pas demandé d'élargir. Il a plutôt demandé de renforcer la coopération militaire entre les FARDC et la force de la MONUSCO en ce qui concerne la neutralisation des groupes armés et la protection des populations civiles.
Tout à fait, je peux confirmer cela parce que moi, j'étais à Goma et on n'a pas parlé d'élargir, mais plutôt effectivement de voir dans quelle mesure on peut rapidement reprendre cette coopération militaire FRDC, force de la MONUSCO, afin d'arriver de neutraliser les groupes armés. Nous restons quelque part toujours... on va revenir là. On prend une question là avant d'aller... On a souvent les mêmes qui posent les questions, mais c'est votre chance.
Roger Marley Lukunga pour Écho de la MP. Je me demande, j'ai entendu lire que dans un communiqué qu'on est en train de déplorer le recrutement massif d'enfants dans les mouvements armés. Mais je me pose la question suivante. Vous êtes d'accord avec moi que les Nations Unies quadrillent le monde entier, n'est-ce pas? Les agences des Nations Unies sont partout dans le monde, en Nouvelle-Zélande, dans les Papouasie, ici en Afrique, en Asie, tout ça partout. En République démocratique du Congo, les antennes des Nations Unies sont partout, n'est-ce pas? Oui. Mais comment se fait-il que lorsqu'on recrute les enfants, ça vous échappe toujours? Vous ne vous rendez compte que lorsqu'ils sont déjà dedans pour établir des rapports. Pourtant, vos agents sont partout, partout, j'ai dit bien partout.
UNDP, plus, non? Quelques éléments. Mais sinon, c'est clair. Hein, la force de la MONUSCO, qui est 20 000 hommes, n'est pas partout en RDC, vous le savez très bien. Non, les agences du système des Nations Unies sont partout, mais je laisse...
Pas vraiment. Hein.
Pas vraiment aussi, d'ailleurs.
Mais, merci pour votre question, mais je pense quand même qu'il faut se poser une question fondamentale. Quelle est la responsabilité des nationaux, des autorités nationales dans chaque pays? Les Nations Unies ne sont pas là pour résoudre les problèmes à la place des autorités nationales. Donc, la première priorité pour sauvegarder les enfants du recrutement dans des groupes armés, c'est laquelle? C'est la responsabilité des citoyens de ce monde, donc des citoyens de la RDC. D'accord? Si chaque communauté prend veille à ce qu'aucun enfant, qu'il soit fille ou garçon, finisse par être recruté de force dans les groupes armés, je pense qu'il y aura déjà un progrès qualitatif qui sera fait. Ne prêtez pas aux Nations Unies des fautes dont elles ne sont pas responsables. Les Nations Unies, c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde. Donc, mais d'abord, c'est les citoyens dans leur pays.
Ok, on va prendre une dernière question ici avant d'aller à Goma. Où est le micro, là?
Une petite question. Laurette Mandala, qui est sur lequel Africa Télévision, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, appelle au dialogue, le dialogue qu'il nous présente comme la seule voie pour éviter les chaos. Et nous avons appris par la dynamique pour le dialogue que le facilitateur sera nommé par le haut sommet des Nations Unies, c'est-à-dire par M. Ban Ki-moon. Et moi, j'aimerais savoir s'il a été consulté pour ça. Est-il déjà à la recherche d'un facilitateur? Ce facilitateur est-il déjà à la porte de la République démocratique du Congo? Voilà.
Monsieur le DSRJ, je réponds.
Yeah, go ahead.
En fait, Monsieur Ban Ki-moon, effectivement, a nommé Monsieur Saïd Djinnit, d'ailleurs, qui revient aujourd'hui en RDC à Kinshasa pour rencontrer le président Kabila afin de continuer les pourparlers, afin de voir dans quelle mesure on peut aller au niveau de ce dialogue avec un facilitateur international. Donc, M. Saïd Djinnit a été nommé par Ban Ki-moon pour un peu déblayer le terrain et voir dans quelle mesure la communauté internationale peut s'engager à soutenir ce dialogue avec un facilitateur international. Ce travail a été entamé par M. Djinnit. Il a eu plusieurs rencontres ici, en RDC, à Kinshasa notamment. Il s'est rendu à Bruxelles pour rencontrer d'autres autorités politiques de la RDC. Il revient, comme je dis, aujourd'hui pour continuer ses entretiens avec le président et puis peut-être avec d'autres acteurs politiques ici à Kinshasa. Et nous souhaitons, nous, dans tous les cas, au niveau du système des Nations Unies, au niveau de la MONUSCO, qu'une fois de plus, le processus électoral puisse aller à terme. Au regard donc de ce que dit la Constitution, de ce que veut la Constitution, novembre 2016 est pour nous une date à laquelle nous nous focalisons pour l'instant. car dialogue ou pas dialogue, ce délai constitutionnel qui a été établi, j'allais dire conjointement au niveau des acteurs politiques, devrait être, j'allais dire, respecté. Et donc, dans ce cadre-là, M. Saïd Djinit va poursuivre ses rencontres. Ce soir même, après son entretien avec le président, je crois qu'il se rend à New York pour s'entretenir également avec Ban Ki-moon, à qui il va rendre compte. Et c'est par la suite que M. Ban Ki-moon pourra désigner le facilitateur international pour éventuellement accompagner. Mais nous ne savons pas déjà à notre niveau quel va être ce facilitateur. Est-ce que c'est M. Djinit lui-même ou un autre? Mais M. Djinit a été chargé de faire un travail préparatoire en vue de déblayer le terrain afin qu'on puisse éventuellement, nous au niveau de la communauté internationale, appuyer et accompagner ce dialogue. Voilà ce que nous pouvons dire. Direction Goma, peut-être, où nous allons prendre deux ou trois questions, parce que nous allons finir dans 7-8 minutes maintenant.
Oui. J'ai le micro.
Mais on t'a pas.
Allez-y, bon, rapidement, Goma.
Oui, c'est Frédéric Pelous pour les comptes fédéraux.
Il n'y a pas de question à Goma?
Ma question. Oui, j'ai une question. C'est Frédéric Pelous pour le compte de la Sotenji. Ma question à M. Arana, c'est peut-être en faveur de tous les journalistes qui sont ici. Quelques précisions peut-être par rapport à ces nouveaux rapports des Nations Unies. Quelles ont été les villes les plus touchées? Il y a eu combien de cas? Mais aussi, qui mène ces violations des droits de l'homme en cette période préélectorale?
Les villes les plus touchées par les violations des droits de l'homme, et puis quels sont, j'allais dire, ceux qui sont les plus responsables des violations des droits de l'homme? Les plus touchés.
Oui. Vous savez, les rapports avec Buc, il a toute l'information précise qu'on a, documentée.
S'il vous plaît, un peu de silence. Hein. Allez-y.
La ville ou la province la plus touchée, c'était Kinshasa, avec 33 violations des droits de l'homme liées aux violations des droits politiques, suivi par North Kivu, 27, Sud Kivu, 20, Kasaï Oriental, 18, Province Orientale, 17, Kasaï Occidental, 11, Katanga, 7, Bas-Congo, 6, Équateur et Maniema, 2. Chaque. Aussi, les auteurs présumés d'identifier dans les rapports, et il faut les suivre avec l'investigation pertinente, la majorité des violations étaient commises par la PNC, suivies par les autres agents étatiques, et après les ANR et à la fin les FRDC.
Voilà, toujours Goma, une autre question peut-être?
Je m'appelle Cosmas Lungazi, journaliste scientifique du journal L'Emergence. Ma question s'adresse à Geneviève du PNUD. L'écho de vos informations, ce sont des comptes rendus des ateliers. Ma question est de savoir, est-ce que vous pensez que ces comptes rendus, c'est ça vraiment les besoins des populations congolaises?
Il dit que votre présentation comporte beaucoup de comptes rendus. Est-ce que c'est de ça qu'a besoin les populations?
Alors, c'est une bonne question. Pour aller rapidement, le PNUD et les agences de développement et les agences humanitaires ont deux approches. Une approche qui vise à travailler sur le terrain avec les bénéficiaires et les communautés et à mettre en œuvre des progrès concrets, des projets concrets pour améliorer leurs conditions de vie au jour le jour, ou pour venir en aide en urgence aux populations en détresse, réfugiées, déplacées, etc. Ça, c'est une action. L'autre action est plus institutionnelle, c'est-à-dire qu'il est fondamental dans un pays comme la RDC, qui a connu des périodes très mouvementées, de reconstruire le dialogue. Et ces ateliers, ça peut sembler rasoir, mais c'est fondamental parce que les gens doivent se parler, doivent apprendre à échanger des bonnes pratiques, à partager les expériences et à élaborer ensemble des stratégies, des plans, etc. Donc, il y a deux axes. Et ça peut sembler un peu, comment dirais-je, un peu entre guillemets inutile en se disant, mon Dieu, encore un atelier. Mais ce qui est fondamental, c'est d'apprendre à construire ensemble une stratégie, une planification pour ensuite les mettre en œuvre sur le terrain et venir en aide concrètement avec des résultats durables avec les populations. Voilà.
Mercredi prochain, l'invité de cette conférence de presse sera Maman Sidikou, représentant spécial du secrétaire général. Donc vous êtes invité à être là avec nous pour cette conférence de presse. Et ainsi que le directeur de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations d'ailleurs. Merci beaucoup et très bonne semaine à tous et à toutes.